VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 20 juillet 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia pour commencer les titres. Au Kenya, 2 morts et des centaines d'arrestations lors des manifestations antigouvernementales de mercredi. En RDC, plusieurs personnes, dont le garde du corps de Chérubin Okende, entendues dans l'enquête sur l'assassinat de l'opposant congolais. En Afrique du Sud, mystérieuse explosion à Johannesburg, 40 de blessés. Tournée africaine et visite en Turquie du chef de la diplomatie chinoise avant et après une réunion des BRICS la semaine prochaine à Johannesburg. Wagner ne combattra plus en Ukraine mais en Afrique, a dit son chef, Evgeny Prigogine, selon une vidéo diffusée mercredi. En Nouvelle-Zélande, fusillade mortelle au jour d'ouverture du mondial féminin. Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Kenya, 2 personnes ont été tuées et des centaines interpellées hier lors de manifestations contre la vie chère à l'appel de l'opposition. D'autres protestations sont prévues aujourd'hui et demain. Les détails avec Nani Talani.
Plus de 300 personnes ont été arrêtées dans tout le pays et seront inculpées de divers délits, notamment de pillage, de dégradation malveillante de biens, d'incendie volontaire, de vol avec violence et d'agression contre les forces de l'ordre, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki. Les forces de l'ordre ont dispersé hier à coups de gaz lacrymogène, des manifestants à Kibera, bidonville de Nairobi et dans les villes de Kisumu, Homabay, Kisii et Migori, des bastions pro-Odinga dans l'ouest du pays. De nombreux commerces ont été fermés. Le chef de l'État, William Ruto, accuse son rival, M. Odinga, d'inciter au chaos. Nous ne voulons pas d'un pays de violence, de combat ou de destruction de biens. Il ajoute que la police doit s'assurer qu'elle est ferme envers les criminels, les gangs, les anarchistes et tous ceux qui veulent semer le chaos. Saluant une journée extrêmement réussie, la coalition d'opposition Azimio a appelé les Kenyans à sortir de manière encore plus forte ce jeudi, 2e de 3 journées d'action prévues jusqu'à demain.
Au Sénégal, 2 membres importants du PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko ont été remis en liberté dans 2 affaires séparées, selon le porte-parole du parti Ousmane Ouli et l'avocat Cyril Clédorli. Son secrétaire national aux communications, El Malik Ndiaye, a été libéré sous caution après avoir été inculpé pour actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles, ce qu'il dément. Quant à Biram Souley Diop, vice-président du parti et membre du Parlement, il a été libéré mercredi après avoir été inculpé le 11 juillet d'offense au président Macky Sall suite à certaines déclarations sur les intentions de M. Sall. 6 jours après l'assassinat de l'opposant et ancien ministre Chérubin Okende, la justice congolaise procède à l'audition de plusieurs personnes, y compris le garde du corps de la victime qui est considéré comme suspect, selon les déclarations hier mercredi à Kinshasa de haut magistrat du parquet Eric Manirakidza.
Le procureur général près la Cour de cassation a confirmé que le garde du corps de M. Okende, détenu par le parquet, est désigné comme le principal suspect. Il souligne que le suspect, qui est un proche de M. Okende, a fourni des déclarations contradictoires, ajoutant ainsi à la complexité de l'enquête. Le chauffeur de l'ancien ministre des Transports est également entendu, ainsi que d'autres personnes, a encore indiqué le procureur. Le magistrat a confirmé qu'il a fait appel pour l'enquête à diverses expertises en police scientifique, cybercriminalité, télécommunications cellulaires, médecine légale, qui livrent peu à peu leurs résultats. Le gouvernement a indiqué vendredi être ouvert à toute expertise extérieure, notamment belge et sud-africaine. L'autopsie n'a pas encore été pratiquée, a-t-il souligné, précisant que les médecins légistes congolais et étrangers doivent travailler ensemble pour des résultats consolidés. La cause de la mort n'est pas encore formellement établie. Jusque-là, d'autres expertises ont montré que la balle qui a traversé la tête de M. Okende a bien été tirée par l'arme retrouvée dans sa voiture. Cette arme appartient au suspect, a dit le procureur général. Député et cadre du parti Ensemble pour la République, du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, Chérubin Okende, 61 ans, a été retrouvé mort dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa.
Une mystérieuse explosion a frappé le centre de Johannesburg hier après-midi à l'heure de pointe, déchirant la chaussée d'un axe de circulation et faisant une quarantaine de blessés, ont précisé les autorités dans la soirée. Les services d'urgence ont initialement pointé une possible explosion de conduite souterraine de gaz, mais la compagnie de gaz Egoli a estimé dans la soirée qu'il était peu probable que l'explosion qui a fendu la rue effondrant la chaussée et renversa plusieurs véhicules, notamment des taxis collectifs, ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé hier que son plus haut responsable pour la diplomatie, Wang Yi, participera au 13e sommet des hauts représentants des BRICS sur la sécurité à Johannesburg les 24 et 25 juillet et visitera le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et la Turquie avant et après le sommet. Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, qui a mené fin juin une mutinerie avortée vers Moscou, a accueilli en Biélorussie des mercenaires du groupe, selon une vidéo diffusée mercredi, dans laquelle Prigogine dit qu'ils ne combattront plus en Ukraine, mais sous peu en Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier que Moscou pourrait envisager de revenir à l'accord sur les céréales si les demandes de Moscou sont pleinement satisfaites, estimant que l'accord a perdu tout son sens, dit Lidico.
La poursuite de l'accord sur les céréales, sous sa forme actuelle, n'a plus aucun sens, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion du gouvernement. Bien entendu, nous envisageons la possibilité d'y revenir, mais à une seule condition. Si toutes les exigences de la Russie sont pleinement prises en compte et respectées. Il a cité le retrait des sanctions sur les livraisons de céréales et d'engrais russes comme l'une des principales conditions. C'est la première fois que le dirigeant russe s'exprimait sur le sujet depuis que Moscou s'est retiré de l'accord. Monsieur Poutine a déclaré que la Russie a fait preuve de miracle d'équilibre et de tolérance en prolongeant l'accord à plusieurs reprises. Il a accusé les pays occidentaux d'utiliser cet accord à des fins de chantage politique et qu'ils en ont fait un outil d'enrichissement des sociétés transnationales et des spéculateurs sur le marché mondial des céréales. M. Poutine s'est exprimé peu après que l'armée russe a déclaré que les cargos se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire seront désormais considérés comme pouvant transporter des cargaisons militaires.
Ajoutons que la Russie a ciblé tôt ce jeudi Mykolaïv et Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine, blessant au moins 20 personnes selon les autorités locales. John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, a terminé hier sa visite en Chine pour reprendre le dialogue sino-américain. Il a assuré que les États-Unis n'imposent aucune solution climatique à la deuxième puissance économique du monde. Claire Morin-Gibourg.
Les réunions avec de hauts responsables chinois ont été chaleureuses et productives, a affirmé M. Kerry, qui a terminé hier sa visite de 3 jours en Chine. Selon l'émissaire américain, les deux parties se sont focalisées sur la meilleure façon de s'assurer que la COP28, en décembre à Dubaï, soit un succès et sur la détermination d'objectifs à proposer en 2025. Mais alors que John Kerry se trouvait à Pékin, le président Xi Jinping a affirmé que son pays doit prendre ses propres décisions, à son rythme, sans aucune influence extérieure. Interrogé à ce sujet par des journalistes, John Kerry a répondu « Nous n'imposons rien à personne, nous suivons la science ». Les États-Unis et la Chine, les deux plus grands pollueurs de la planète, ont convenu de se concentrer sur l'accélération de l'intégration des énergies renouvelables pour réduire les émissions liées au charbon et les émissions d'autres gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, a précisé M. Kerry. De nouvelles rencontres sont prévues dans quelques semaines.
Une fusillade survenue dans le centre d'Auckland, la ville la plus peuplée de la Nouvelle-Zélande, a fait 3 morts, dont le tireur présumé ce jeudi, jour d'ouverture du mondial de football féminin. Le premier ministre Chris Hipkins a estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a annoncé que la Coupe du Monde, organisée conjointement avec l'Australie, débuterait ce jeudi comme prévu. La fusillade qui s'est produite ce matin sur un chantier de construction, a également fait 6 blessés, dont des policiers. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
Le FMI a approuvé un prêt de près $1 milliard au Kenya pour aider le pays à réduire sa vulnérabilité liée à la dette et à lutter contre les changements climatiques. Le programme devrait davantage intégrer des considérations liées au climat en adoptant des réformes sur une gestion des finances publiques vertes, introduire une taxe carbone et renforcer les mécanismes de réduction des risques et de gestion des catastrophes, a expliqué le FMI dans un communiqué. La Banque européenne d'investissement va financer à hauteur de 10 millions d'euros l'établissement des parcs solaires dans 120 villages de Madagascar, a annoncé lundi la présidence malgache dans un communiqué. Le projet vise à offrir à plus de 45 000 ménages et entreprises un accès à une énergie durable, abordable et productive, ajoute le communiqué. Environ 33,7% de la population malgache a accès à l'électricité contre une moyenne de 48,4% pour l'Afrique subsaharienne en 2020. La Tunisie a signé mercredi une convention de financement avec la Banque africaine de développement pour un prêt de $87 millions en vue de soutenir un projet de développement intégré du système céréalier. Selon le ministère tunisien de l'économie et de la planification, le projet ambitionne de consolider la sécurité et l'autosuffisance alimentaire en Tunisie en aidant 250 000 agriculteurs à augmenter leur capacité de production de blé et d'orge fourragère.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce jeudi 20 juillet de la Coupe du Monde féminine.
Oui, 32 nations se lancent dans la course à la succession des États-Unis, champions en titre dans cette 9e édition du Mondial féminin, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné avec le match Nouvelle-Zélande-Norvège à Auckland. Toujours ce jeudi, l'Australie joue contre l'Irlande à Sydney à guichet fermé, soit devant 80 000 spectateurs. L'Afrique compte sur 4 représentants. Le Nigeria qui fait son entrée en lice demain 21 juillet face à un gros morceau, le Canada, dans le groupe B. Dans la poule C, on aura Zambie, Japon le 22 juillet et Suède, Afrique du Sud le lendemain. Le dernier représentant africain, le Maroc, effectue sa première sortie le 24 juillet face à l'Allemagne dans le groupe H.
André Onana confirme son envie de jouer à Manchester United.
Je suis quelqu'un qui cherche toujours de nouveaux défis et jouer en Première Ligue pour un club comme United est irrésistible, a déclaré le gardien de but camerounais de l'Inter Milan. André Onana devrait signer avec Manchester United pour un montant estimé par les médias à 55 millions d'euros après avoir rejoint l'Inter Milan l'été dernier en tant que joueur libre. Il a participé avec le club italien à la finale de la Ligue des Champions, perdue contre Manchester City, écarté par le sélectionneur camerounais Rigobert Song lors du dernier mondial pour des raisons disciplinaires. Onana a mis un terme à sa carrière internationale après 34 sélections avec les Lions Indomptables du Cameroun.
L'entraîneur de l'Inter Miami envisage les débuts de Messi et de Busquets demain, vendredi.
L'Argentin Léo Messi et l'Espagnol Sergio Busquets, les récentes recrues stars de l'Inter Miami, pourraient faire leur grand début contre l'équipe mexicaine Cruz Azul, selon l'entraîneur de la franchise nord-américaine. Je n'exclus pas de les lancer dans le bain lors de ce tournoi réunissant des équipes américaines et mexicaines, a déclaré le technicien argentin Gerardo Tata Martino. Les deux anciens coéquipiers du Barça viennent de s'engager jusqu'en 2025 avec le club de MLS. L'Inter Miami peine depuis plusieurs saisons en championnat où ses résultats sont décevants. Il reste sur 11 matchs sans victoire et a enregistré samedi dernier sa 14e défaite en 22 sorties cette saison.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, le projet de nouvelle constitution qui sera soumis à référendum le 30 juillet divise la classe politique, particulièrement les dispositions relatives à la double nationalité ou au mandat présidentiel illimité qui passe de 5 à 7 ans. Félix Yepasi Zembrou a recueilli la réaction de Fidel Gwanjika, conseiller spécial du président centrafricain à Bangui.
La campagne a démarré, mais je peux vous dire qu'il y a un engouement terrible en République centrafricaine qui présage de l'organisation effective de ce référendum aux dates.
Le BRCD a fait une marche vendredi dernier et Partez Iguilé a fait part de leur volonté de boycotter ce référendum. Qu'en dites-vous?
Le BRD n'est pas représentatif de l'opposition démocratique en Centrafrique. Nous avons à peu près une trentaine de partis et aujourd'hui, il y a une bonne frange de l'opposition démocratique qui soutient ce processus qui est en cours et qui est irréversible.
D'autres s'insurgent en ce moment contre certaines dispositions du projet de la nouvelle constitution, relatives notamment à la centrafricanité et à la non-limitation du mandat présidentiel. Que répondez-vous à ces gens-là?
Les grandes démocraties que nous connaissons, je peux même prendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, l'exemple de la France, des pays de l'Union européenne, pour briguer la magistrature suprême de l'État, il faut avoir la nationalité de cet État et y être né. Et donc, ce n'est pas une première en République centrafricaine. La Constitution de janvier 1995 stipulait dans un de ses articles que pour briguer la magistrature suprême de l'État, il faut n'avoir que la nationalité centrafricaine. Et donc, ça, c'est une préférence nationale qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui a une nationalité étrangère vienne assurer la présidence d'une république et porter deux drapeaux.
Oui, c'est ça. En ce qui concerne l'autre volet, la non-limitation du mandat présidentiel qui passe maintenant de 5 à 7 ans.
Beaucoup de pays l'ont fait. D'autres pays passaient de 5 à 7 ans. D'autres pays passent de 7 ans à 5 ans. Ceux qui diminuent la durée de mandat, ce sont surtout des pays industrialisés où il n'y a pas grand-chose à faire en matière d'infrastructure de base. Je voudrais prendre par exemple le cas de la France que nous connaissons très bien. Avant, c'était 7 ans, M. Mitterrand en fait 14 ans, M. Chirac aussi. Et quand c'est arrivé au temps de François Hollande, je suppose, ils ont réduit cela à 5 ans parce que chez eux, ils pensent qu'une alternance de 5 ans est suffisamment étoffée pour mettre en chantier les projets de société pour lesquels le peuple leur a donné confiance. Ici, chez nous, tout est à refaire. Donc, le passage de 5 à 7 ans permettra à celui qui va être élu, et s'il a la chance d'être réélu, il aura 14 ans devant lui pour développer le pays.
Fidel Gwanjika, conseiller spécial du président centrafricain.
À votre avis, sur VOA Afrique, avec Claire Morin-Gibourg. Des millions de personnes souffrent de vagues de chaleur intenses sur quatre continents, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Comment s'adapter à ces fortes chaleurs? Que doivent mettre en place les autorités dans votre pays? Quelles sont vos astuces lorsque les températures sont si élevées? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou laissez-nous un message sur notre numéro WhatsApp plus 1 202 297 60 89.
Depuis plus d'une semaine, des centaines de Burkinabés, principalement de l'ethnie Peul, ont été expulsés du Ghana. Certains ont été accueillis et installés à Dakola, une commune burkinabé située à la frontière avec le Ghana. Notre correspondant, Gnas Da, s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Regard perdu dans le vide, Aïcha, nom d'emprunt, se demande ce qui a bien pu se passer pour qu'elle et les siens soient expulsés du Ghana. Elle vivait dans ce pays depuis plus de 10 ans.
Je revenais du Marigot quand j'ai vu les militaires en train de frapper nos hommes. Je suis alors partie pour chercher mes enfants dans notre maison et ils m'ont frappée.
C'est ainsi qu'elle et certains membres de sa famille, dont ses 5 enfants, seront ramenés de force au Burkina sans rien.
On n'a rien pu prendre comme bien et argent.
En fait, elles sont des centaines à avoir été chassées du Ghana. Des personnes expulsées, installées temporairement dans une école de Dakola, commune située à la frontière avec le pays de Kwame Nkrumah. Et pour ces personnes, impossible d'emporter quoi que ce soit. C'est ce que nous dit ce proche de personnes expulsées. Le sujet est tabou et personne ne souhaite parler à visage découvert sans l'autorisation de l'administration.
Tous les biens sont restés au Ghana, ainsi que les animaux. Personne n'a pu emporter même un poulet.
Et il y a bien pire.
De nombreuses femmes ont leurs enfants qui sont restés au Ghana. Parce que quand ceux qui expulsent viennent, ils t'en battent comme ils t'ont trouvé. Beaucoup de femmes n'ont pas pu prendre leurs enfants avec elles. Parmi ces enfants, il y a des nourrissons. Ceux qui sont allés les expulser ont refusé de les écouter. L'armée ghanéenne continue toujours d'expulser les gens là-bas.
Courant semaine passée, des membres du gouvernement burkinabé étaient passés pour s'enquérir de la situation. Le nombre de personnes expulsées montait alors à 250, chiffre officiel. Depuis, à Dakola, de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs des expulsés dont certains vivaient au Ghana depuis plus de 20 ans. Et selon nos informations, d'autres vagues d'expulsion seraient en cours. Ici, ces hommes et femmes chassés du Ghana ont été transférés sur de nouveaux sites gardés par des forces de défense et de sécurité. Le Ghana, quant à lui, affirme n'être pas au courant d'expulsion de Burkinabés de son territoire. Gilles Dasda de retour de Dakola, VOA Afrique.
Voilà, c'était Dasda qui s'est rendu sur place à Dakola. Des records de température sont battus partout dans le monde. L'Europe, mais aussi les États-Unis, le Canada et la Chine souffrent de vagues de chaleur intenses. Le continent africain n'est pas non plus épargné. Le Maroc, par exemple, connaît des températures entre 37 et 47 degrés dans plusieurs provinces. Claire Morin-Gibourg a joint le directeur du Centre africain des applications en météo, André Kamga.
Effectivement, en ce moment, nous avons des vagues de chaleur, en particulier sur le nord-ouest de l'Afrique, donc la zone du Maroc, par exemple, et puis sur toute la bande est et australe, donc Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Mais sur cette zone-là, n'étant pas en période d'été, il y a une augmentation de température que l'on voit par rapport à la moyenne de la période. Donc ce n'est pas des seuils particulièrement alarmants là-bas, mais c'est surtout sur le nord-ouest, autour du Maroc, que c'est significatif.
L'ACMAD est basé à Niamey. Le Sahel est une des régions qui est fortement touchée par les grosses vagues de chaleur. Comment l'Afrique s'adapte et que doit-elle faire pour mieux s'adapter justement à ces vagues de chaleur?
Il se trouve que l'Afrique est très vaste. Pendant qu'il y a ces vagues de chaleur sur la partie nord du continent, c'est étroitement lié à une période de saison de pluie très très active. Sur la bande sahélienne, par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, pendant qu'il fait très chaud au Maroc, il y a beaucoup de pluie sur la bande sahélienne, juste au-dessus de Sahara. Donc, d'une part, on doit s'adapter à la vague de chaleur qui a lieu sur la partie nord de l'Afrique, mais on doit aussi s'adapter aux fortes précipitations pouvant entraîner des inondations sur la bande sahélienne. Donc, ce qui se fait en Afrique actuellement depuis quelques années, c'est la mise en place des systèmes d'alerte précoce. Et ces systèmes d'alerte précoce sont structurés au niveau continental, donc au niveau de l'Union africaine, au niveau régional, dans les regroupements économiques régionaux et au niveau national. pour l'instant, nous sommes encore en train de mettre en place cette architecture institutionnelle à trois niveaux pour pouvoir faire l'alerte qui apparaît comme le moyen d'adaptation le plus apporté.
Qu'est-ce que vous pensez que l'Afrique peut apporter au monde occidental et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique qui souffre depuis longtemps de très grosses saisons avec des températures extrêmement élevées ?
Concernant en particulier la bande sahélienne, qui a ses vagues de chaleur plutôt en mars-avril et parfois début mai, il y a une tradition d'adaptation qui se caractérise par la plantation des arbres. Nous avons pris le temps de comparer les températures à l'ombre d'un arbre que les températures en plein air en ville. Quand vous êtes sous l'arbre, il n'y a pratiquement pas ce seuil de température extrême qui est atteint. Donc ici, par exemple, au Niger, il y a des journées pour planter les arbres. Pendant certains événements, certaines fêtes, on encourage les populations à planter les arbres et ça constitue un moyen d'adaptation tout à fait remarquable.
André Kamunga, directeur du Centre africain des applications en météo basé à Niamey, au Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En sport, nous nous penchons ce matin sur l'équipe féminine du Maroc dans notre série sur la présentation des quatre formations prenant part au mondial féminin, commençant ce jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Même si elles y vont en novice, les Lions de l'Atlas souhaitent emboîter le pas à leurs homologues masculins qui ont fini quatrième lors du mondial au Qatar en décembre dernier. Les filles du coach français Reynald Pedros misent sur une bonne préparation et une parfaite entente pour tenter de bousculer leurs adversaires Yacoubaou et Draogo.
Premier pays arabe à se qualifier pour une Coupe du Monde féminine, le Maroc espère faire parler de lui en Australie et en Nouvelle-Zélande, moins d'un an après l'exploit du 11 masculin qui a atteint les demi-finales du Mondial au Qatar. Malgré les énormes différences entre les équipes masculines et féminines marocaines en termes d'histoire et de profil, les dames insistent sur le fait qu'elles sont bien préparées pour la plus grande scène du foot féminin. Salma Amani, joueuse du Maroc.
Nous travaillons tous les jours, nous déployons tous nos efforts pour être prêtes et bien préparées pour le début de la Coupe du Monde.
Pour le début des matchs amicaux ou la compétition.
Gizlan Chebak, elle, décrit une bonne atmosphère qui règne durant les séances d'entraînement.
L'harmonie règne au sein de l'équipe. Nous nous traitons comme une famille. Il y a une bonne harmonie entre joueuses et nous nous entraidons pendant la préparation.
Nouhaïla Benzina joue pour le club de Far du Rabat et pour la sélection nationale. Elle a été retenue pour le mondial.
Au terme d'une longue lutte, nous avons enfin pu nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup travaillé avec les entraîneurs, nos clubs et avec l'équipe nationale. Un travail acharné effectué pendant de nombreuses années et qui a eu un résultat positif. Nous espérons être à un haut niveau pour honorer les Marocains.
Avec le soutien de sa fédération, le Maroc a réussi à remporter le tournoi féminin de l'Union du football nord-africain en 2020 en Tunisie, avant de terminer vice-champion de la CAN féminine 2022 à domicile. En match amicaux, les Lions de l'Atlas ont obtenu deux résultats nuls, 0-0 contre la Suisse et l'Italie, et perdu contre la Jamaïque 2-0. Pour leur premier mondial, les Marocaines veulent tout donner. Yasmine Zouhir, attaquante du Maroc.
On a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde et de représenter au mieux notre pays et tout donner pour le peuple marocain.
L'équipe de Reynald Pedro débute sa campagne dans le groupe H le 24 juillet contre l'Allemagne, qui a soulevé le trophée à deux reprises en 2003 et 2007 et qui a aussi remporté trois titres de championne d'Europe. Le Maroc va ensuite croiser la Corée du Sud le 30 juillet avant de terminer la phase de groupe contre la Colombie le 3 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.